Bonjour. C'est bien ce truc-là. Merci. Il est où le constructeur? Merci. Non, c'est bien. C'est vraiment bien. Alléluia. Du coup, il y a de la place. On peut poser. C'est stable. Ça n'arrête pas de tomber. Waouh. C'est une œuvre d'art. Il y a de l'art comme ça et puis il y a de l'art comme ça. Ok. On va juste commencer par passer une image. Et la question que je voudrais vous poser, quel est le dénominateur commun qu'on a dans toutes ces images? Il y a un dénominateur commun qui n'est pas forcément évident au premier coup d'œil. Moi, je sais. Le mouvement. Oui, il y a du mouvement. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la danse, là, le mouvement est visible. Un bébé qui marche à quatre pattes, l'équilibre, le mouvement, il faut du mouvement pour faire cette peinture où il y a Jésus qui lave les pieds de quelqu'un. L'électricité est un mouvement, d'ailleurs on appelle le courant électrique, parce que quelque chose court. Une explosion, c'est du mouvement. Et la première chose qui nous touche, c'est l'onde de choc, qui est invisible, qu'on ne voit pas, mais c'est du mouvement. La musique. Essayez de faire la musique sans mouvement. Même le piano, là, si tu ne touches pas tes touches, ça ne marche pas. Le trompettiste, il souffle. Il faut du mouvement. Les personnes qui chantent. Ah oui, mais elles chantent, c'est pas du mouvement. Comment fonctionne la voix? C'est la respiration, c'est un mouvement. C'est de l'air qu'on va renvoyer, qu'on va mettre en action. Mais en même temps, on a notre un petit truc là, qu'on appelle des cordes vocales avec un muscle. Quand j'ai vu la première fois ça sur une image, je trouvais ça incroyable. On dirait qu'il y a juste deux muscles. Et il n'y a rien. On arrive à tout moduler avec ce truc-là. Mais c'est énorme. Donc on bouge ce muscle qui va s'ouvrir et se fermer. Et on va moduler des sons. Donc c'est de nouveau des muscles en mouvement. Et bien sûr, le cosmos, les planètes qui tournent sur elles-mêmes, le cosmos qui est en expansion, la force gravitationnelle, du mouvement est partout. Et même dans l'infiniment petit, donc on est parti dans l'infiniment grand, et même dans l'infiniment petit, nos atomes, un noyau, puis des électrons qui courent autour, qui sont en mouvement. Et en fait, on se rend compte un tout petit peu que, très rapidement, on se rend compte que le mouvement est omniprésent dans la création, dans la vie. C'est quelque chose qui est en permanence là. Donc on va un peu parler du mouvement aujourd'hui, on va parler des danses, un peu des bannières. On va voir ce que ça fait dans la célébration, on va voir quelques versets. On verra différents rôles ou actions. Et c'est juste une introduction, parce que l'objectif n'est pas de faire une étude biblique qui va durer des heures, mais c'est juste une introduction, poser quelques bases. Alors une fois que j'ai posé ça, on peut l'enlever, peu importe finalement. Première des questions, est-ce que Dieu est immobile? Est-ce qu'il est statique? Il ne bouge pas. Il attend que ça se passe. C'est intéressant parce que même Jésus disait à un moment donné, mais je fais tout ce que je vois le Père faire. Un Dieu qui est en mouvement. On est très loin de cette image d'un Dieu posé sur un trône, et il est parfois sur le trône, mais ce n'est pas un Dieu statique, immobile. On est un peu loin de l'image d'un Dieu jupitérien, Zeus. Dieu est en mouvement. Et souvent, en tout cas, on peut assimiler le mouvement à quelque chose d'assez irrespectueux, voire d'irréligieux, quelque chose qui n'est pas bien, qui n'a pas forcément sa place dans l'Église. Et je peux comprendre, complètement. Je pense qu'il y a des moments pour que ce soit calme, posé, et puis il y a d'autres moments où on a le droit de faire quelques mouvements en plus. on a le droit de bouger l'orteil, la main, le doigt, et commencer tout doucement à aller plus loin. De toute façon, notre corps, lui, il est en mouvement en permanence. Si Dieu est en mouvement, nous sommes créés à l'image de qui ? De Dieu. Donc, je pense qu'on peut aussi parler du fait qu'on est créé à son image. Et donc, même dans l'Église, la danse peut exister, les mouvements peuvent exister. Et on a vu un petit peu quelque chose, des bannières un petit peu bouger là-bas sur le côté ce matin. Merci pour ceux qui ont utilisé ces bannières. Merci. Merci. Donc je vais partir de ce mouvement et après en arriver à la danse de manière un peu plus précise. Première des choses, Yona qui est là a déjà eu une partie du cours à l'ISP, quand on a étudié l'éducation physique. Donc il y a une partie des éléments que tu vas retrouver ici, puis d'autres qui sont en plus. On étudie à l'ISP, donc je rappelle que c'est l'Institut supérieur protestant Mathurin Cordier qui enseigne au niveau des enseignants actuellement. Donc on passe 2-3 jours sur le sport et la redécouverte de ce que le sport peut apporter. Waouh, c'est juste génial. Et on fait un peu de sport en général, on transpire un petit peu, il y en a qui sont plus ou moins à l'aise, mais c'est tellement important que notre corps soit en action et pas juste notre tête. Et voir qu'on peut voir le sport dans une approche complètement biblique. Pas grec, mais complètement biblique. Donc il y a des éléments que tu as déjà sûrement eus. La première des choses qu'un jour quand j'ai travaillé sur le mouvement, c'était dans Actes 17, verset 28. Ce verset dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et ce verset a été donné dans le contexte de l'adoration des statues des idoles. Hein. On est en plein mouvement d'adoration. Qu'est-ce qui vient en premier ? Nous avons là la vie. Qu'est-ce qui vient en deuxième ? Le mouvement. Et troisième, l'être. En général, j'aurais dit le premier c'est la vie, l'être et le mouvement. Ça semble logique. Mais il est possible à ce moment-là que, si cette chronologie est exacte, c'est que le mouvement précède l'être. Et que d'une certaine manière, quand on est en mouvement, ça participe à créer notre identité, qui nous sommes. Moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui bouge pas mal, j'aime bien me promener, et j'ai besoin de bouger. Et il y a quelque chose qui se passe en moi quand je fais ça. Ah, quand tu marches une journée en montagne, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Tu dépenses, mais en même temps, tu es en accord avec la création, quelque chose qui se passe. Et juste une petite aparté, je n'ai vécu des bons temps à l'église, bien souvent, mais je crois que parmi les meilleurs moments que j'ai jamais pu vivre avec Dieu, parmi les plus profonds, je veux dire, c'est difficile de faire une comparaison, mais c'est ce qu'on a fait quand j'ai fait ces marches d'intercession, autour de l'Alsace, dans le sud de la France. Il y a eu des moments où tu es dans une autre dimension, littéralement. Où tu te retrouves en train d'adorer Dieu avec tout ton être. Tout ton être. Et c'est juste quelque chose d'absolument incroyable. Oui. Le mouvement, est-ce qu'il est présent dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ? On va le voir que oui. On va commencer par le Nouveau Testament, parce que c'est un verset, par exemple. Vous vous rappelez un endroit où il y a une guérison ? Qu'est-ce qui se passait ? Je parle de mouvement. Il y a un boiteux qui saute, qui danse, qui fait le fou. Une question d'ailleurs. Est-ce que les Israélites, les Juifs, oui, les Juifs, est-ce que les Juifs font ça ? Est-ce qu'ils aiment danser ? Yes. Je rappelle, j'aurais pu montrer des images, mais finalement je ne l'ai pas fait parce que ça, je ne sais pas si ça apportait vraiment quelque chose. quand vous allez au Cotel et que vous voyez les gens danser, le mur des lamentations, c'est juste incroyable le bruit qu'il y a, le tohu-bohu qu'il y a, le souk qu'il y a. Il y a des gens qui dansent en ronde sur le parvis, ils sautent, ils se frappent des mains. Puis tout d'un coup, il y a un truc chez les gars qui commence, et ça crie et ça hurle. Et puis, il y a comme une espèce de grande place qui est laissée vide. Et puis tout d'un coup, ils courent tous là-dedans. Et c'est comme dans une boîte de nuit, tu n'arrives même plus à bouger tellement qu'il y a de monde qui sont en train de sauter les uns avec les autres. Et puis on voit les femmes danser de leur côté. Ça n'arrête pas. Et puis à part cela, il y en a qui prient face au mur. C'est un joyeux désordre. C'est un joyeux désordre. Et moi, j'aime ça. J'aime ce joyeux désordre. Ah, ça m'avait fait du bien quand je vois aussi ces hommes danser entre eux et ces femmes danser entre elles. Il y a des moments qui sont particuliers. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et puis, il y a des moments avec ces choses qui sont plus collectives. Alléluia. Ouais. Par contre, je me réalisais que quand je voulais vous montrer ça, je voulais en même temps vous mettre en parallèle le cadre d'une église un peu austère, style église catholique, je dirais. Et je ferai attention à ça, parce que l'église catholique n'est pas forcément austère. Et vous montrer la différence entre les deux. Est-ce que cette différence aurait été juste ? Non. Non, pourquoi ? Parce qu'autant, ce qu'on peut voir, c'est que les gens dansent et font la fête à l'extérieur. Quand il y avait le temple, à l'intérieur du temple, est-ce qu'il y avait le même désordre ? Ben non. Il y avait un endroit, en tout cas au niveau du lieu saint, du lieu très saint, où le même désordre n'était pas acceptable. Sur le parvis, sûrement. Et les gens dansaient, Jésus a fait des miracles, les enfants ils arrivent, ils sautent de joie, ils crient, et les pharisiens sont un peu énervés. Ben oui, quand même, on se calme. Pourquoi vous sautez, pourquoi vous dansez, pourquoi vous manifestez autant de joie? Ben, je veux dire, quand on voit les gens être guéris, à un moment donné, c'est normal que la joie se transpire. Et ça me semble, en tout cas, moi, une évidence. Et ça les embêtait, je pense qu'il y avait une forme de jalousie, et ils ont pris un prétexte pour essayer de les calmer. Et Jésus a dit, mais non, non, si eux se taisent, alors les pierres vont crier. Donc la joie était bel et bien là. Repensez au passage dans Luc 15. Luc 15, c'est l'histoire de deux jeunes hommes qui auraient dû être les fils de la maison et qui se sont perdus loin du père. L'un, il était loin du père physiquement, il est parti vraiment au loin. L'autre était proche physiquement, mais l'un comme l'autre était loin du père. L'un comme l'autre ne connaissait pas le père. L'un comme l'autre était un peu perdu ailleurs. Et Jésus fait... On nous raconte cette histoire où le fils étant rentré, il l'a embrassé, il a fait tout un cheminement avec lui. Il l'entraîne à la fête. Il l'entraîne à la fête. Et dans cette fête-là, il y a les danses. Jésus nous parle des danses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de verset biblique où il dit dans le Nouveau Testament, attention, il faut danser. Mais là, clairement, oh, son fils aîné était au champ, et comme il revenait, qu'il approchait de la maison, il entendit la mélodie et les danses au verset 26. Et le fils aîné, alors c'est quand même surprenant, il aurait pu se dire, mais vite, allons voir ce qui se passe, il appelle un serviteur. Et au fait, il se passe quoi là-bas? Renvoyez-moi des comptes. À mon avis, il savait, mais il a préféré faire comme s'il ne savait pas. Et ce jeune fils lui dit, mais voilà ce qui se passe, ton frère est venu, ton père a tué le veau gras. Et qu'est-ce qui se passe pour le frère aîné? Il dit qu'il se mit en colère. Il ne veut pas rentrer. C'est intéressant comme on peut résister à certaines choses. Et il va râler de plein de manières possibles et imaginaires. Je ne vais pas faire ici le cours que va donner Pierre Cranca au mois de février. Mais quand il y a de la danse, on ne peut pas rester tiède. Il y a quelque chose qui nous provoque, il y a quelque chose qui nous emmène à aller plus loin. Et j'imagine la tête de ce fils cadet qui est rentré, qui est venu avec des paroles de repentance, qui avait encore le cœur qui a besoin de changement, qui découvre le Père, qui se laisse finalement embrasser par le Père. Et le Père dit, maintenant, viens, on va faire la fête. Vous auriez fait quoi, vous, à la place? Vous n'avez pas fait un bon petit sermon à ce petit-fils qui, quand même, il a fait quand même pas mal de bêtises. Moi, en tout cas, il y a que je te parle. Entre quatre yeux, parce que quand même... En aparté, je vais pas prévu de parler de ça, mais je ne veux pas que je m'égare trop. L'autre jour, on lisait le psaume 51. Et quelqu'un a dit que c'était le psaume de la repentance par excellence. Je vais juste le prendre. C'est une petite parenthèse. Et quand je lis ce psaume, moi, je trouve absolument incroyable. Vous savez, le contexte, c'est quand David a péché, donc adultère, meurtrier. Et on peut voir ce psaume de deux manières. On peut voir tous les versets où il dit, mais les os que tu as brisés, enfin, genre de choses. Maintenant, si on commence à poser le fondement de ce psaume, donc Nathan est venu vers lui, et puis quand il commence, un des premiers versets, il dit, Seigneur, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Imaginez-vous le gamin qui a fait une bêtise et qui vient chez vous. Papa, tu te rappelles combien tu es bon, gentil et bienveillant? Alors, tu vas être gentil avec moi et tu vas effacer mes fautes selon ta bienveillance. Alors, je le fais avec un petit peu d'humour. Je pense que David ne se moquait pas de Dieu. Je le fais exprès pour montrer à quel point il connaissait Dieu. À quel point il connaissait Dieu. À quel point il était proche de Dieu. Il y a plein de versets. Verset 10, quand même, annonce-moi l'allégresse et la joie. Quand vous avez fait une faute, vous allez voir la personne laquelle, contre qui vous avez fait la faute. Au fait, au bout de 10 phrases, et après on va faire la fête ensemble. C'est bien. Je crois que cette fête et cette joie, il y avait cette danse aussi qui était là. Il y a cette danse qui était là. Donc, il y aura d'autres versets où je pourrais vous montrer qu'il y a le mouvement qui est omniprésent. Comme dans cette piscine où il y a un mouvement qui est là, Blanche qui est là, et quand il y a le mouvement qui est là, la guérison arrive. Dans l'Ancien Testament, il y a des choses comme par exemple, vous avez déjà lu Ézéchiel 1. Essayez de dessiner Ézéchiel 1. Je mets un défi aux dessinateurs. ça fait 10 fois ou 100 fois ou 1000 fois que j'imagine ce truc-là. C'est juste impossible. Il y a une explosion de mouvement. Le vent d'un côté, il y a du feu, il y a des gerbes, il y a des lumières éclatantes. Il y avait des ailes. Il y en a qui se tournent, qui marchent. Chacun marchait devant lui, l'esprit, et puis il y avait les esprits qui les poussaient d'aller dans cette direction. Et les animaux couraient, revenaient comme la foudre. Ça n'arrête pas. Verset 17. En cheminant, elles allaient de leur côté, elles ne se tournaient point. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Quand les animaux s'élevaient, les roues s'élevaient. Ils allaient où l'esprit les poussait. Les roues soulevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Et on parle des yeux qui sont là. Et puis on parle le verset 24. J'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils marchaient pareil au bruit de grosses eaux. Et puis finalement, on voit un trône qui est au-dessus de ça. C'est pour ça que j'aime bien le trône de Dieu. Il est tout sauf statique. Et il y a un trône là-dessus, comme de l'air impoli. Dieu est un Dieu mouvement. Et je crois qu'il veut que le mouvement continue à exister dans l'Église. Et je me réjouis de ce qu'on vit ici depuis des années. Mais il y a une nouvelle étape qui nous attend. Je ne sais pas encore exactement laquelle, mais une nouvelle étape qui nous attend. Un autre verset où le mouvement est omniprésent. Et on verra que c'est quelque chose d'un peu différent de la première partie. Donc ça va parler aussi de différentes actions, différents rôles. C'est un peu pour l'instant, je vous mets différentes choses en place et puis on va essayer d'agencer tout ça. Ézéchiel 37. On connaît ce passage. Et puis, il y a une vallée, il y a des os. Et puis, l'Esprit de Dieu va le transporter. Première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a un transport. Il n'est pas sur place. Il l'a emmené quelque part. Et il est face à la montagne, et puis il y a un dialogue qui s'installe. Et puis il y a plein d'ossements secs. Il dit, puis là, une question, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, toi, tu sais. Hein. Bon, ok, vas-y, maintenant tu vas prophétiser, tu vas leur parler. Il y aura différentes étapes. Je vous donnerai des os. Je vous ferai des ligaments, les nerfs vont venir, la chair va pousser, il y aura la peau, et je mettrai un esprit. Bon, le prophète se met en route. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. J'aimerais, vu qu'on parle encore une fois du mouvement, vous vous rappelez de Acte 17, quelle était la chronologie? La vie, le mouvement et l'être. Regardez ce qu'on retrouve ici. On prophétise. Il y eut un bruit, un frémissement. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ce mouvement a été initié, les os s'approchent. Pendant très longtemps, je voyais ce passage comme... Je voyais les os s'approcher et puis le bruit, parce que ça fait un peu film un peu spécial, mais quand même, un film de science-fiction ne ferait pas mieux en fait. Hein. Tu vois les os qui commencent à bouger, et non, c'est des squelettes, ça fait peur. Et quelque part, pendant très longtemps, je me suis dit, mais je voyais le bruit qui était la conséquence de ce rapprochement. Or ici, il est dit qu'il y a eu la parole qui a été donnée, il y a un frémissement, il y a un bruit qui s'est passé. Et le mot qui est utilisé pour ce mouvement est comme un tremblement de terre, comme une onde. Le son d'ailleurs, quand on parle, c'est une onde. Le mouvement crée des ondes. Tout à l'heure, on a vu un avion qui faisait un... passer le mur du son. Il rentre dans sa propre onde. Et donc, il y a un bruit, il y a un frémissement, un mouvement. Donc, il y a comme un tremblement de terre. Et... la conséquence de cela, les os se rapprochent. C'est le mouvement qui vient du vent, qui souffle et qui manifeste la vie. Dans Genèse, il se passait quoi, la création ? Vous avez vu, je suis comme super balle aujourd'hui. En général, j'essaie d'être plus construit. Là, c'est un peu comme je vais dans tous les sens. Donc, il faut me suivre. Désolé. Ça va? Ok. Qu'est-ce qui se passe à la création? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Moi, je crois que ce mouvement de l'Esprit de Dieu au-dessus de la création elle-même était ce qui allait permettre, de certaine manière, la création. Est-ce que l'Esprit était perdu, ne savait pas quoi faire? Il dit, oh, je vais me promener là. Ah, tiens, ils sont paumés. Ouais, bon, peut-être qu'on ferait un truc sympa ici. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je crois qu'il y avait une intention de Dieu. Et l'Esprit qui était en mouvement autour de la création était comme le commencement de ce qui allait être manifesté après. Encore un autre endroit où le mouvement est là, c'est notre naissance, la naissance de l'Église. Acte 1,
Alors, je parle comme l'acte fondateur de la naissance de l'Église. Je pense que l'Église est née de Jésus, donc je ne vais pas te faire... Ne te fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ferai des raccourcis. Mais à un moment donné, il se passe quelque chose. Jésus leur a dit, vous allez attendre un certain temps, jusqu'à ce que quelque chose arrive. Et ce quelque chose va amener une force et une puissance. Si vous regardez bien, au moment où cela se manifeste, il y a comme un bruit, un mouvement qui arrive. Il y a le vent qui se met à souffler. Il y a quelque chose qui se manifestait de la même manière que quand l'Esprit de Dieu était là, la même manière quand les ossements se rapprochent. Et ce mouvement va créer la vie. Donc, ayant dit ça, et si pour moi c'est important, mais peut-être que c'est important aussi pour Dieu, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique, un tout petit peu. Première des choses, il y a deux aspects à ce qui est mouvement. Le premier, c'est vraiment ce qui est célébration. C'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais du cotel où les gens font la fête ensemble. Et il n'y a pas de limite à ça. C'est un joyeux bruit. Et parfois, quand, ici, en ce moment, c'est un peu plus calme, mais ce n'est pas grave. Il y a une nouvelle vague qui va venir. Il y a du bruit, tout le monde saute dans tous les sens, ça court, ça bouge. Est-ce que ça a sa place? Ben oui. Et je crois que heureusement qu'on a tout le monde a le droit de danser dans l'église. Heureusement que tout le monde a le droit de se manifester. Heureusement que sinon ça veut dire que la danse n'est que l'affaire de quelques spécialistes, de quelques élus qui auraient le droit, par grâce, à manifester et à sautiller un petit peu. Ben non. Et c'est ce que je retrouvais sur ces images du cotel, où les gens dansent, ils font les fous. Célébration. Vous remarquez quand même aussi, c'est que ces célébrations ne sont pas individuelles. Elles sont collectives. Quand vous allez au mur des lamentations, les gens se regroupent. Il y a des danses qui se font de manière collective. Je peux louer Dieu dans ma chambre, je peux louer Dieu ici à des moments donnés particuliers, tout seul. Et ça a sa place aussi. Mais à un moment donné, Dieu nous invite à venir célébrer ensemble. Et c'était un des thèmes de l'année, rappelez-vous ce que Luc avait partagé en début d'année, la célébration, la fête. Il y a quelque chose où Dieu nous demande de revenir ensemble, de revenir célébrer ensemble, de venir manifester la joie. Et pas la joie parce que tout va bien. À la place de nos amis juifs, parfois je me dirais, qu'est-ce qui nous reste dans notre religion depuis 2000 ans ? Un mur. Il ne nous reste qu'un mur. Et au-dessus de ce mur, il y a une mosquée. Cool. Sans parler, donc ça je parle de la généralité, sans parler de tous leurs défis personnels, où ils sont parfois confrontés à la douleur, aux attentats, à l'incompréhension. Et vous savez quoi? Quand ils se rencontrent au temple, ils font la fête. Et une chose qui m'a surpris, c'est de voir les hommes en habits militaires, les soldats qui viennent faire la fête. Et puis tu les vois parfois même danser comme s'ils dansaient le rock. Tu dis, mais c'est pas très religieux ce truc-là. Je sais pas si moi j'oserais. Mais ils font ça entre eux et c'est juste génial. C'est des potes qui vont vers Dieu ensemble, les amis. Et je pense qu'il y a des temps où on a la louange individuelle est juste, la danse individuelle est juste, mais il y a des moments où Dieu dit, on va falloir se rassembler pour célébrer Dieu ensemble. Donc ça a complètement sa place. Et ça amène quelque chose. Ça amène une révélation, ça amène quelque chose de spécial. Psaume 87:7. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Et ceux qui sont en train de chanter et de danser, alors je pense que parfois pour les musiciens c'est un peu compliqué de danser en même temps, surtout quand il y a la batterie, n'est-ce pas? À la guitare parfois on peut plus bouger, mais... Donc encore une fois, je vais enfermer personne dans un mode de fonctionnement. Une fois que je me dépêche, je m'étale un peu trop. Mais il y a quelque chose qui arrive. Ici, tout d'un coup, ils peuvent s'écrier, toutes mes sources sont en toi. Il y a comme une révélation qui descend. Quelques versets encore, Exode 14. L'Éternel est ma force et mon chant. C'est suite à au passage de la mer Rouge et quand Pharaon a été englouti. Et là, il y a un chant qui est célébré. Et puis il est dit à un moment donné que Marie, la prophétesse, Sarah, sœur d'Aaron, verset 20, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent avec elle avec des tambourins et des danses. Et Marie répondait aux enfants d'Israël, chant était éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité la mer et le cheval et son cavalier. Dans la mer, le cheval et son cavalier. Il y a comme les femmes qui dansent d'un côté, les hommes de l'autre, il y a des réponses qui sont faites. Parce que parfois on dit, mais est-ce qu'il faut que tout le monde fasse tout en même temps? Par exemple ici, clairement, on a les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Est-ce que c'est un souci? Ben non. C'est pas du tout un souci. Je ne vais pas reprendre tous les autres versets sur la danse, parce qu'il y en aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le temps passe. Alors, Dieu est un Dieu en mouvement, partie 1. Le mouvement précède des choses que l'on voit manifester après dans le naturel, l'être, la vie. Psaume 18, rapidement, si vous regardez dans le psaume 18, c'est juste un moment incroyable, t'as un gars qui est complètement paumé, il dit « Seigneur, au secours, la mort m'entoure, les filets sont là, je suis foutu, viens m'aider, au secours !» Et puis, quelques versets plus loin, on voit le ciel bouger, on voit le trône de Dieu, on voit les charbons ardents, les vents, les puissances. Et on voit ce gars-là qui est passé de du statut de pauvre réfugié encerclé par la mort à celui-là qui bande l'arc des reins. Un mouvement incroyable. Donc Dieu est en mouvement, nous sommes faits à son image et il y a les temps de célébration et de fête. Maintenant, est-ce que tout est célébration? Ben non, tout n'est pas célébration. Tout à l'heure, j'ai parlé de ce passage où le prophète prophétise. Est-ce que tous sont en train de prophétiser avec lui à ce moment-là? Non. Donc, je parlerai aussi du fait que dans la danse et parfois dans le mouvement, il y a des temps où tous ne sont pas appelés à faire la même chose en même temps. Pour illustrer ça, je prendrai le temps de louange. Ce matin, il y avait une équipe de louange. Il y avait des musiciens qui chantaient. Est-ce que tous ceux qui sont musiciens ou qui savent chanter ont couru vers les instruments et ont pris les instruments? Qu'est-ce qui serait passé si on avait fait ça? Les musiciens, vous auriez aimé? Moyennement, hein. Si chacun joue son rythme là-dedans, c'est pas mal, hein. Ouais, mais en fait, on devrait jouer ça. Non, c'est ça. Ce que je veux dire par là, ce qui semble une évidence au niveau musical, devrait aussi être une évidence dans le mouvement. On ne peut pas tout faire en même temps, tout le temps. Et là, il faut à ce moment-là comprendre qu'on a une autorité différente, un appel différent. La célébration, elle est pour toutes. Et pour tous. Par contre, je ferai attention quand on arrive à des moments un peu plus spéciaux, où quelque chose est en train de se passer. Par exemple, parfois on a pris des bannières, à un moment donné avec plusieurs, on a commencé, pas les agiter, mais à avoir des mouvements rapides. Spécialement quand, parfois l'équipe de louange nous disait, mais c'est complètement bougé. On n'arrive pas à passer au-dessus. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez être en action? Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on est en train de célébrer quelque chose? Non. Oui. On célèbre la victoire de Christ avant même qu'elle ait manifesté. Mais à ce moment-là, quand on va prendre ces bannières, qu'on va manifester quelque part, quelque chose de l'autorité de Dieu, on prend position face à des puissances qui veulent nous empêcher d'agir, puissances de l'air, et on va se mettre en action. Et régulièrement, ce qu'on nous a dit, c'est « Waouh, enfin, ça a percé. » Bon, admettons que quelqu'un vienne se remettre avec ce groupe qui est en train de faire ça. Et qu'il n'est pas tout à fait à sa place. Quelles pourraient être les conséquences ? Spirituellement, je parle. Je ne veux pas aller trop loin parce que je ne sais jamais ce que Dieu fait, ne fait pas. Mais je ferai attention à de rester dans l'appel et le mandat que Dieu me donne. Si je sors du mandat que Dieu me donne, et qui nous a donné à nous, et qui est manifesté au niveau de l'autorité dans l'Église, alors je me mets hors de son autorité, vu que ce n'est pas ce qu'il m'a demandé de faire. Et du coup, je peux me mettre dans une position qui peut être compliquée. Et après, je rentre chez moi, mais j'ai plein de soucis. Ouais, mais chaque fois que je vais louer Dieu, eh ben, j'ai plein de problèmes. Peut-être que tu devrais d'abord regarder s'il y a des choses à corriger dans tes actions. Donc, je pense qu'il y a des actions que l'on fait au niveau des danses et des bannières qui sont vraiment très spécifiques. Et à ce moment-là, comme pour la louange, la musique, tout le monde n'a pas à être là, tout le monde n'a pas à interagir. Sinon, ça crée plus de désordre qu'autre chose, et on n'a pas vraiment l'idée de ce qui va se passer. Et puis finalement, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement d'ajouter une bannière, ou de courir ou de sauter, qu'est-ce qui m'intéresse ? Louer Dieu, mais faire que sa volonté à ce moment-là descende sur la terre. Elle soit manifestée. Et si je n'y suis pas, alléluia, tout va bien. Ce qui est important, c'est que ce que Dieu veut faire soit manifesté. Par exemple, quand on prend les bâtons qui sont là-bas, il y a un certain nombre de bâtons, et on creuse un puits avec. C'est une position de prince. Ce n'est pas juste le fait de prendre un bâton, de le manifester, de le secouer. Ça veut dire qu'on veut manifester l'autorité de Dieu dans notre région, dans notre terre, dans notre temps. Si je n'ai pas conscience de ce que je peux bouger en face, ou je le fais juste parce que c'est sympa, parce que l'ambiance est bonne, parce que tout le monde d'autre le font, ben je loupe pourquoi il faudrait le faire. Donc je ne suis pas en action avec les autres. Et du coup, ben voilà, j'ai reçu ma récompense. On m'a vu. Mais ce n'est pas ça l'important. Je crois que l'important, c'est de manifester ce que Dieu nous demande de faire. Rapidement aussi, la musique, la danse, ça peut avoir différents styles. Il y en a qui arrivent à danser en des danses très fluides, comme de la danse classique. Ce n'est pas mon style. Il y en a qui font plus du hip-hop. Ce n'est pas un problème pour moi. Moi, je suis plus danse de l'ours. Voilà. Ça, ses effets. mais je ne sortirai pas de mon mandat. Par exemple, il y en a qui aiment beaucoup les danses israéliennes. Et je n'ai pas du tout de souci avec ça. Mais je ne suis pas toujours très à l'aise avec ces mouvements. Bah, c'est génial que ceux qui veulent faire les danses israéliennes font les danses israéliennes, avec tous les pas qui vont avec. On s'était essayé une fois une soirée avec une danse celtique. Et bon, j'avoue que j'ai eu du mal, et mes pieds se sont un petit peu perdus. Mais voilà. La danse. Je reviens tout à l'heure sur le fait que le mouvement avait créé quelque chose. Et c'est là où on revient entre la célébration et la portée prophétique d'un acte. Si ce que j'ai créé dans le mouvement, comme dans Genèse, comme dans Ézéchiel 37, va avoir une action, alors mon mouvement en moi que Dieu m'inspire à ce moment-là va avoir une action sur la terre. Et on a aussi vu des choses, que ce soit au niveau personnel ou au niveau plus collectif. Juste comment, par exemple, quand on passe un tissu rouge sur quelqu'un et que la personne se sent comme lavée, purifiée, est-ce qu'il y a quelque chose de magique dans le tissu rouge? Non, c'est un tissu. Mais dans l'action, le mandat que Dieu te donne à ce moment-là, quand tu passes ce mouvement, il se passe quelque chose et la personne est délivrée. Et on a vécu des délivrances rien qu'avec un bout de tissu rouge. C'est pratique parce qu'on n'a pas grand-chose à faire. On a vu des gens être rétablis juste parce qu'on a ouvert les cieux avec des bannières. On a vu des rencontres changer de physionomie parce qu'à un moment donné, on s'est mis en action. Oh, personne n'était là avec moi en France en feu à Bordeaux. Ah, David. Les bannières se sont mises en route à un moment donné. On a été vraiment invités. Puis il y a eu des moments avec les bâtons qu'ils ne connaissaient pas là-bas. Ça a changé la cour de la soirée. Mais c'est pas seulement parce que ça a changé que tout, quelque chose s'est passé au niveau collectif. Et je reviens sur le mot collectif. Mais quelque chose a bougé dans l'esprit. Il y a des moments donnés, on a besoin d'être ensemble. D'ailleurs, je relance un appel à France en feu pour début novembre. Il y a quelque chose qui nous attend. Vous savez, juste quand même, pour notre histoire au niveau des danses et des bannières, que la première fois que je suis rentré là-dedans, moi que j'ai vu des bannières, c'est en 92, et j'ai vu un gars dans une conférence qui s'appelait à l'époque « Les fruits de la louange à Voiron ». J'ai dit « Mais c'est quoi ce truc ? Mais c'est quoi ce machin là ? Non mais il se la pète le gars quoi. » Bon, ma conversion doit être 91, mais j'ai dit « Mais bon, c'est sympa, on dirait le cirque, mais ça n'a rien à faire ici. » J'ai un peu changé d'avis entre temps. Comment Dieu peut pu m'emmener d'un endroit où je me disais, mais c'est complètement. C'est comme si les gens veulent se montrer, et c'est pas Dieu là derrière. Ah, si, si, c'est ce qu'il faut faire. Seigneur, pardon d'avoir jugé. Pardon d'avoir méprisé. Et puis, on a commencé à être les pionniers dans les danses et les bannières. C'était l'époque des années 95-2000. Pour ceux qui étaient... On se battait avec trois bannières. Moi, pendant très longtemps, ma seule bannière, c'était un bout de bois avec un tissu rouge qui n'était même pas cousu. Mais les premiers pas où j'ai utilisé ma bannière, c'était dans le chantier de notre école Emmanuel. C'est-à-dire que c'est, vous savez, là en bas, là, dans le chantier, c'est là, dans un chantier comme ça, que je fais des bannières. Avant d'être ici. Et quand tu fais des bannières dans un endroit froid, poussiéreux, avec une musique qui est... Un petit appareil à cassette à l'époque. Tu sais pourquoi tu fais ça. Pas à cause de l'ambiance, mais parce que vraiment Dieu te demande de faire. Et quand j'ai vu les fruits derrière, ben je continue. Après, on a commencé à étoffer. On a plus de bannières, on a commencé à créer. On a été ensemble avec toute une équipe sur Paris. Et j'ai pu voir de ces premiers mouvements, où les bannières, où les mouvements, les danses étaient anecdotiques dans l'église, à quelque chose qui est devenu très courant. C'est comme l'art. On a commencé à dessiner il y a quelques années en arrière, notamment avec Bénédicte qui n'est pas là, et d'autres, Denis aussi. Mais c'est anecdotique. Qui dessinait? Aujourd'hui, on retrouve ça à peu près pas partout. Et je crois que ça correspond à des mouvements que Dieu veut faire. Et aujourd'hui, si Dieu nous parle de nouveau de mettre ça en route, c'est qu'il veut ranimer quelque chose. Je crois qu'il y a une flamme qui est là, qui doit être ranimé. Il y a quelque chose qui doit tout à nouveau souffler et être relevé. Alléluia. Alors, on va tout faire. Je vais m'arrêter là, bon, dans 5 minutes. On a prévu deux autres temps pour pouvoir vraiment passer une journée dessus. Parce que c'est bien de parler de la danse, mais concrètement, aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup pratiqué. Donc on a prévu plus ou moins au mois de janvier d'avoir une journée. On peut travailler là-dessus, donc pour ceux qui voudraient s'inscrire, et puis aller plus loin encore au mois de mars. Avoir les ateliers de mise en pratique, comprendre, aller plus loin, se poser des questions. Par exemple, je n'ai pas du tout abordé le sujet des couleurs aujourd'hui au niveau des bannières. Pourquoi je prendrais du bleu à un moment donné et pas du rouge ? Comment mettre en pratique ? Alléluia. Je crois que rappelez-vous que Dieu est vraiment de bonne humeur. Rien n'est impossible à Dieu, même pas la danse. Le sacrifice de Jésus est tout suffisant. Même avec mes danses, ce n'est pas moi qui fais créer les choses. Je les amène à l'existence. On ne doit pas essayer de justifier ce qui est de la danse. Elle est. Et la danse existe dans la maison du Père. C'est vraiment quelque chose d'omniprésent. Elle est passion, elle est tendresse, elle est rire, c'est un langage. C'est parfois une mise à nu parce qu'on se livre. On révèle le cœur de Père et on amène à l'existence des choses qui sont dans le royaume. Tout ça juste parce que nous, on bouge un peu plus à l'unisson de ce qui se fait dans le ciel. Alléluia. Je m'arrête là pour aujourd'hui. On a encore 5 minutes. Est-ce qu'il y en a qui a des questions, une suggestion, quelque chose à dire avant que je prie? Ok.
En fait, je me souviens d'une époque où on avait rencontré quelqu'un qui s'appelle Ruth Eflin. Je ne sais pas si ce nom parle à plusieurs. En tout cas, c'était vraiment une femme de Dieu. Elle avait vraiment quelque chose de particulier par rapport à la gloire. Et elle parlait de la danse aussi. Elle disait, mais Dieu me demande de danser. Mais il ne me demande pas de danser pour mon propre salut. Il ne me demande pas de danser pour ma propre édification ou quoi. Mais c'était vraiment dans ce sens d'amener le ciel sur la terre. Et moi, je sais que la danse, je peux être émue aux larmes en voyant quelqu'un danser. Et ce qu'il y a de beau avec la danse, les drapeaux, etc., c'est que ce n'est pas filtré par notre petit cerveau qui a toujours besoin de raisonner. Et généralement, quand on voit, et c'est vrai pour un tableau, c'est vrai pour les arts en général, ça parle directement à nos émotions. Ce n'est pas filtré par tout ce que l'éducation, etc., a pu tordre. Généralement, ça parle directement à nos émotions, à notre âme, à notre esprit. Et c'est ça aussi qui est puissant, c'est que quand on est dans cet aspect prophétique dont parlait Vito, de la danse, c'est vrai qu'il y a ce côté célébration où on parle à Dieu, mais parfois il y a ce côté prophétique où Dieu, à travers la personne qui est en train de danser ou d'agiter ses drapeaux, comme il disait, veut parler au peuple et amener une guérison et amener une libération. Et parce que ça, c'est pas filtré par notre raison. Voilà. Juste.
Amen. Et on fait tous des erreurs. En parlant d'autorité, alors juste une ou deux petites boulettes que j'ai pu faire. On rappelle une fois, on était à une convention, une pastorale sur Mâcon, avec des pasteurs, donc on avait été invité avec mon épouse Jocelyne, on est descendu. Puis il y avait des bannières comme ça qui étaient posées dans un pot. Puis je les ai prises. Parce que pour moi, ce qui était dans les pots, c'était vraiment des bannières offertes au service. Il y a une dame qui est venue et qui m'a dit, mais tu ne m'as pas demandé, c'est n'importe quoi, arrête. Ok, j'ai posé les bannières. Après, je suis allé m'excuser. Je lui ai dit, écoute, je suis désolé, je n'ai pas compris. Parce qu'effectivement, ce n'était pas mes bannières. Et du coup, un coup d'après, je savais que c'était les siennes, je savais vers qui je devais aller, donc j'ai pu demander et j'ai pu manifester ce qu'il y avait à manifester, mais sous l'autorité de la personne qui était sur place. Une autre fois, c'était la grande conférence quand on a été au Canada en 2005, et puis il y avait les Indiens qui dansaient. Et ceux qui savent que j'aime bien les danses indiennes, ça me correspond un petit peu. Et ils s'éclataient, mais waouh, c'était beau, les chrétiens, les premières nations qui étaient là, les Inuits. Et c'était un temps de célébration vraiment, mais un temps de folie sur la grande estrade. Puis je demandais à des responsables si je peux y aller. Puis on me dit oui, ok, vas-y. Youpi. Parce que je pensais qu'il fallait que les... Donc, ce que je recevais, c'est que les nations présentes qui étaient venues pour être témoins de ce qui se passait puissent aussi être représentées sur cette estrade. Au bout de 5-10 minutes, ça c'était sympa. Et quelqu'un qui est venu me dire, il faut que tu descendes. Donc c'était le responsable de la danse sur place, qui n'avait pas été averti. Bah, c'est pareil, j'ai dit, excusez-moi, j'ai demandé l'avis de quelqu'un qui m'a dit oui. Ok. Et je ne suis pas resté dans la rancœur. Pourquoi ? On vivait un temps tellement incroyable sur place. Pourquoi s'exciter ou s'énerver pour un truc Et si j'avais commencé à travailler avec ça, ou je me rappelle avec Ruth et Flynn, à un moment donné, on était en groupe, j'avais commencé à utiliser une bannière et puis j'ai touché la tête de quelqu'un. Tu dis, oh non, tu veux être le super spy, entre guillemets, et puis tu fais mal à quelqu'un. Et le gars, il s'effondre sur sa chaise. Et c'était pas la violence du coup, mais il avait vécu quelque chose spirituellement. Mais sur le coup, ça m'a... Waouh. C'est comme s'il avait été touché par Dieu à ce moment-là. Et quelqu'un m'a dit, mais écoute, t'inquiète pas, tout va bien. Il devait être touché de cette manière-là. Et moi, quelque part, au fond de toi, tu dis, bon, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre.
Je me permets. C'est juste dans le même sens... je me souviens d'un jour à Mâcon où il y avait ce temps prophétique et on m'avait libérée et j'étais en train de prophétiser sur des gens avec mon épée. Alors c'est vrai que parfois ça peut faire peur, quoi. Et quelqu'un est venu me dire « Écoute, là, faut que tu arrêtes, c'est dangereux ce que tu fais. Je ne connaissais pas cette personne. Pour moi, il faisait certainement partie des responsables. Donc j'ai dit, il n'y a pas de problème, je m'arrête, je remets mon épée à sa place. Eh bien, un des responsables de l'église de cette époque, c'est Richard Sissia. Il est venu, lui, me demander pardon. Il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es arrêté? J'ai vu que tu as parlé avec cet homme. Il n'avait aucune autorité pour te dire d'arrêter. Je te demande pardon à cause de ça. Et ouais, c'était... J'étais vraiment, vraiment touchée. Donc, ça va dans les deux sens. C'est vrai qu'on veut se soumettre aux autorités qui sont en place. Mais ça va dans les deux sens.
Amen. Et je finis juste ce dernier témoignage. Et puis après, je vais encore prier pour que quelque chose soit révélé. C'était en 2005 à Portsmouth avec Target Europe, Cibel Europe. Alors les conférences Cibel Europe, pour ceux qui ont entendu déjà parler, c'est des moments qui ont été absolument uniques pour nous, pour plusieurs raisons. Des moments de réveil, des moments de force, c'est vraiment été dans l'action. Ça a été des moments clés dans nos vies, absolument. Et vrai en tant que personne, mais vrai aussi en tant que l'Église. Et en tout cas, il y en avait une, on n'était pas à Portsmouth, et puis on avait vécu tout un temps prophétique avec plein de personnes. Et le lendemain, il y a des gens qui sont venus nous voir et qui disent, mais... Oh, ok, racontez-nous ce que vous avez fait hier. C'était préparé? Non, on ne prépare pas. Non, il ne faut quand même pas me dire que tout ce qui s'est passé hier soir n'a pas été préparé à l'avance. Non, ça n'a pas été préparé à l'avance. Souvent, on n'a que le début de l'image, on se met en action, et au fur et à mesure qu'on est en action, Dieu nous révèle pendant la marche. C'est comme quand Abraham est parti de son pays, il n'a pas eu... tout le chemin à parcourir sur une carte avec un GPS, au fur et à mesure que tu es dans la marche, les choses sont venues. Donc l'idée, c'est souvent de se mettre en route et de laisser les choses se dérouler. Papa, je veux te dire merci pour ce mouvement que tu nous donnes, cette vie, tout ce qui a été déjà vécu à Josué. On peut venir avec reconnaissance pour toutes les danses qui ont été manifestées, pour toutes les délivrances qui ont été manifestées, pour toutes ces paroles ou ces gestes prophétiques qui ont amené la vie, qui ont fait que le ciel est venu se répandre sur la terre. Merci parce qu'on peut voir, de par le monde, pas seulement notre nation, mais de par le monde, le chant, la danse, les arts, être réveillé. Et c'est quelque chose qui était dans ton cœur à toi. C'était dans ton cœur et ça continue à être là. Papa, on va quand on te prie pour une nouvelle vague. Ce qui a été et qui a été bon, et merci pour, on te dit merci pour ça, mais que la nouvelle vague vienne, que ce nouveau vienne. On a enlevé ce manteau au mois de septembre. On dit que les choses anciennes sont passées. Des choses nouvelles sont en train de venir. J'appelle ce nouveau temps maintenant sur nos vies. J'appelle ces nouveaux temps dans la bannière, ce nouveau temps dans les danses, dans les réjouissances, dans les célébrations collectives, dans les gestes prophétiques. J'appelle cette nouvelle dimension à l'existence. Seigneur, merci pour ceux que tu es en train de lever afin qu'ils puissent grandir dans ces dimensions. Merci pour les nouveaux danseurs, les nouvelles danseuses. Alléluia. Merci pour l'onction prophétique qui veut poser ce qui va non seulement poser, être posé sur eux, mais qui va imprégner toute leur vie, imbiber leur vie. Merci pour cette huile fraîche dont tu les revêts. Je prie que plusieurs soient vraiment complètement bouleversés par cette danse au fond d'eux-mêmes. Que ce soit comme un cri, comme un hurlement, comme une gestation. Papa, je te prie que là où simplement mes mots ont pu être faibles, et je te demande pardon pour la faiblesse de mes mots, tu viennes maintenant par ton esprit venir faire vivifier comme des semences de vie qui ne font que grandir, grandir. C'est toi qui donnes la croissance à ton royaume. C'est toi qui fais croître. C'est toi qui fais croître. C'est toi qui fais croître. Alors je prie que tout ce qui est encore caché, endormi, soit réveillé. Seigneur, viens réveiller. Viens réveiller l'amour. Viens réveiller les danses des guerriers. Viens réveiller celles qui dansent terribles comme des troupes sur leur bannière. Viens réveiller la danse du bien-aimé qui manifeste ton intimité, ta présence. Viens réveiller les cris de joie des enfants dans la danse. Viens réveiller.